tous les podcasts Détroit 8, radiogrenouille.com.
En direct de la belle de mai sur le 88.8. Nous sommes toujours dans Hyper Ville, et avant de basculer à Super Ville, on va vous en parler un peu tout à l'heure. Restons encore un petit peu dans Hyper Ville. Voilà, c'est ces différents collectifs qui sont à Marseille depuis vendredi. Et eh bien, ils se sont baladés dans la ville de Marseille le premier jour, vendredi. Les collectifs ont discuté ensemble, ils ont eu des échanges sur les différentes pratiques entre, je sais pas, Bassourama, de la Praxis, ETC, Yes We Camp, Mastoc par exemple. Et puis le deuxième jour, ils sont allés se balader à la marge de la ville, dans les périphéries, un peu aller un peu dans la nature, dans les collines de Marseille, regarder un petit peu la ville un peu de plus loin, et puis voir ce qui se passe aux marges de la ville. Hier, ils étaient à la plaine, plein centre-ville, cette fois-ci avec différents collectifs d'habitants, des citoyens voilà, engagés dans des formes de réappropriation de leur espace public immédiat. Et Juliane, tu étais, je crois, donc le deuxième jour, tu as marché avec les collectifs.
Oui, alors c'est ça. Vendredi, j'ai fait la balade avec le Cabanon Vertical qui présentait des installations à la Cité Bellevue à Félix Piat. Et donc, j'ai suivi Prune, qui fait partie du collectif donc, du Cabanon Vertical, et qui a présenté aux autres collectifs madrilènes ces installations qu'on appelle les geckos. Voilà.
C'est un petit reportage qu'on va écouter sur donc ce travail du Cabanon Vertical.
Ce matin, nous nous rendons à la cité Bellevue, à Félix Piat, dans le quartier de Saint-Mauron. Et nous allons visiter des aménagements, du mobilier co-construit avec le Cabanon Vertical dans cette cité. Donc je vais vous présenter les geckos. Donc, c'est un projet du Cabanon Vertical. Ce qui est important, c'est que ce premier projet il vient d'une demande de terrain. Il y avait des jeunes donc, à la cité Bellevue qui se plaignaient de ne pas avoir des agrès de musculation de rue. Et du coup, ils ont créé le Conseil local de la jeunesse. Ils ont négocié pendant un an et demi à peu près pour faire remonter ça au service de la ville. Et puis la politique de la ville de Marseille a rencontré plusieurs opérateurs et elle a fait le choix du Cabanon Vertical. Le Cabanon a décidé d'essayer de mettre en forme, de sculpter une forme qui donne lieu à une mixité de situations et de possibilités, de ne pas simplement se limiter à la musculation. Donc c'est un petit peu l'idée avec ce gecko d'avoir une forme qui se soulève, d'avoir une pente, d'avoir de quoi faire de la musculation, mais aussi s'asseoir à l'ombre, au soleil, se rencontrer, jouer, voilà, d'avoir une pluralité de destinations de cet objet sculptural.
Pour le gecko, hein, c'est que genre des enfants qui viennent jouer en moderne de jeu ou c'est aussi des gens qui font du parcours?
C'est plutôt des ados, des jeunes hommes qui viennent faire de la muscu.
Ah, voilà.
Et quelques enfants, en fait, là, on a l'école primaire et maternelle,
ouais, qui viennent jouer.
Viennent jouer à un moment donné.
Okay.
Bonjour. On va présenter ces jolis bancs où vous êtes assis. Mais
restez là.
Mais restez là. En fait, on présente ces installations où vous êtes assis parce que ça change des bancs standards qui se construisent dans l'espace, dans la ville. Et du coup, c'est un projet assez nouveau, en tout cas, pour occuper, être dans l'espace public. Enfin, vous ne voyez pas souvent des objets comme ça pour vous asseoir. Il n'y en a qu'un et c'est ici. Voilà. Du coup, on le présente. On vous envahit gentiment.
Pourquoi c'est si important pour le Cabanon Vertical de faire des aménagements dans des cités comme ça, notamment à Félix Piat?
L'intérêt d'être à Félix Piat, c'est que il y a eu par moments une désertion des pouvoirs publics, et puis du coup c'est de faire des prototypes d'espace public de voir si ça fonctionne, si les gens s'y installent, si ça marche, si les gens les dégradent ou en prennent soin. Et l'intérêt d'être dans les quartiers dits prioritaires à la politique de la ville, c'est d'arriver à travailler avec les habitants et puis d'impulser des dynamiques dans des quartiers qui sont souvent très enclavés.
También piensa que en Madrid está pasando las cosas como importantes, ¿no? Pues todo el cambio de gobierno, una nueva mentalidad, etc.
La question des matériaux, donc c'est béton, bois, structure métal pour les ombrières ou pour les agrès de muscu. Et souvent, les collectifs de constructeurs, bon, par manque de moyens et puis aussi par souci de recyclage ou de choses comme ça, ils vont travailler avec du bois de palette, avec des outils qu'ils ont sous la main. Et au Cabanon, on essaie quand même, en fonction des budgets, mais de travailler avec des matériaux plus pérennes, comme du béton, par exemple. Et l'intérêt, c'est que ces places-là, c'est un peu prototypé. Mettre en forme un nouvel espace de vie qui existait avant ou pas, et puis de l'expérimenter pour X années et éventuellement plus tard préfigurer une réelle place qui n'est pas envisagée de manière réversible comme ça. Et après, peut-être que ces installations vont rester aussi sur le long terme si les matériaux tiennent la route et tout ça, pourquoi pas, si l'espace fonctionne.
Pourquoi c'était important de montrer ces installations aujourd'hui, Cabanon Vertical, pourquoi devait montrer ces installations dans le cadre d'Hyperville à des collectifs, aux collectifs espagnols?
Comme disait Florent du collectif ETC, ces aménagements ont permis d'enclencher une démarche au sein de la politique de la ville et de fluidifier un petit peu les processus. Mais finalement, on ne connaît pas tous très bien les projets de chacun. Les collectifs se heurtent aux mêmes problématiques et aux mêmes contraintes, aux mêmes blocages. Et en fait, on ne sait pas trop comment les autres fonctionnent. Et c'est intéressant aussi de se rencontrer autour de ces questions de montage de projets et de représenter les projets, les budgets, les portages, et puis de comprendre un peu quels mécanismes sont en place, il me semble.
Deux personnes dans une idée en cuisine, c'est un action chaud pour remplir des bacs, les porter.
Voilà, c'était un extrait des différentes balades qui ont eu lieu ces derniers jours, comme ça, dans la ville. Tout au long de l'après-midi, sur les ondes de Radio Grenouille, on entendra d'autres reportages. Il y aura aussi des petites 10 minutes avec le collectif Todo por la Praxis, le collectif Basurama, le collectif Mastoc. C'est dire que Hyperville va continuer sur les ondes de Radio Grenouille toute la journée. Et puis, on a eu comme ça deux petites questions qu'on a posées un peu au hasard des personnes rencontrées. La première question, c'était qu'est-ce qu'occuper ? Alors voilà, c'est très rapide, c'est très court. Quelques éléments de réponse de qu'est-ce qu'occuper ?
Prendre position.
Intervenir.
Occuper, dans le discours de l'aménagement urbain, on dirait s'approprier.
S'approprier. Voilà la notion d'occuper. Et là, on fait d'une certaine manière un peu retour sur la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Une autre question que nous avons posée, comme ça, un peu au hasard, c'était au fond, qu'est-ce qui est en commun de l'ensemble de ces collectifs ? Quand il y a eu la présentation vendredi après-midi dans le local d'ETC, de Yes We Camp et du Cabanon Vertical, je me disais, mais c'est très différent quand même, tous ces collectifs, ils ont des manières d'intervenir très différentes. Et puis Florent, qui nous a rejoint ici au plateau, me disait, oui, mais ils sont tous architectes. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont de commun. Alors bon, ça m'a un peu questionné tout de même, et je me suis dit, voilà une manière de finalement ramener l'architecture à son strict minimum quand on a le sentiment que ces collectifs veulent s'en dépasser cette notion d'architecture. Donc on a posé la question, voilà un retour du commun.
Alors moi je pense que c'est un peu le ras-le-bol général des agences d'architecture de notre époque, et c'est un peu l'envie de retourner aux sources, de concevoir de ses propres mains plutôt que de rester toute la journée derrière un ordinateur.
Voilà, cette proposition de dire, c'est d'abord ce que nous avons en commun, un ras-le-bol général de la manière dont la ville se construit aujourd'hui dans sa grande majorité. Autour de la table, nos mêmes invités que tout à l'heure, Diego de Todo la Praxis, Juan de Basurama, Florent pour le collectif ETC et Domenico Di Siena qui traduisait tout à l'heure et qui est maintenant présent et qui a un regard sur la question justement des différents collectifs en Espagne, mais pas qu'en Espagne, en Italie aussi et je crois un petit peu en France. Donc voilà, sa connaissance des différents collectifs va nous être utile. À la traduction Alfonso, qui traduit du français vers l'espagnol à Diego. Et puis Julien, qui cette fois-ci est avec nous et qui va traduire Diego de l'espagnol vers le français. Juste comme ça, une première question. Vous êtes d'accord avec ce qu'on a entendu sur finalement un commun de base principe qui est de dire, bon, d'abord, ce qu'on a en commun, c'est un ras-le-bol général, un refus de la ville telle qu'elle se construit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement le point de départ d'un commun entre les différents collectifs, hein, Juan?
Ok, c'est pas facile. Je pense que c'est une façon de vivre, ou de vouloir vivre d'une façon différente, où les règles qui sont déjà écrites, ça ne nous sert pas pour nous débrouiller dans les façons qu'on pense qu'on peut être la... notre meilleure face. On dirait, pour être le mieux qu'on peut être, les règles et l'environnement qui est autour de nous, ça ne nous sert pas. Donc il faut le changer. Et ça, c'est lequel que je sens que c'est la connexion entre nous et aussi qu'on est architecte.
Donc aussi que vous êtes architecte, et tu rajoutes à ce aussi que vous êtes architecte qui est le désir de changer, le désir qu'il y ait un changement. Ouais. Florent,
ça marche là ou pas?
Oui, ça marche.
Alors je crois que ce qu'on a en commun aussi, c'est qu'au sein de nos différents groupes, on le voit pas forcément comme un travail, mais plus comme une activité qui nous prend tout notre temps et notre énergie, et que cette activité, elle permet de subvenir aussi à notre quotidien, et que ce rapport au travail est hyper important, j'ai l'impression, dans les groupes qu'on est.
Est-ce que tu peux préciser ça encore, ce rapport au travail?
C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont un travail au sein de Basurama, ils ont un travail au sein de Todo por la Praxis ou au sein de TC. Mais qu'en tout cas, on a une activité et que cette activité, en étant rémunérée, même modestement, nous permet de vivre comme on a envie de vivre. Et du coup, on mélange toute notre action quotidienne avec les projets qu'on mène, et il y a une ambiguïté qui est là et qui est importante.
Alors, le changement, non pas un travail, mais une activité, Diego?
Es difícil. Bueno, yo quiero entender que es un trabajo. Es cierto que...
C'est un travail.
Que podemos entenderlo porque no ponemos los límites.
Parce qu'on ne pose pas les limites.
Dentro un poco de nuestro trabajo y dentro de nuestro compromiso militante,
notre travail, notre activisme militant et notre vie.
Pero yo creo que deberíamos un poco tratarlo como trabajo,
para nous devons le considérer comme un travail,
precisamente por intentar un poco dignificar lo que decíamos antes, ¿no? O sea, lo que hablamos anteriormente. De todas formas, yo creo que lo que sí que tenemos en común,
je crois qu'est-ce qu'on a en commun,
es que estamos intentando hacer o construir una ciudad o una alternativa al modelo de ciudad que tenemos,
alternative, ¿no? Au modèle qui existe.
Somos muy diferentes.
On est très différents.
Unos lo viven desde la actividad, unos lo viven desde el trabajo,
l'autre depuis le travail.
Pero la mirada de construir alternativa,
mais le regard de construire d'une manière alternative,
el punto común
je crois que c'est le point commun
que mueve un poco estas prácticas,
qui met toutes ces pratiques en mouvement.
Alors, activité, changement, alternative. Diego, Domenico, donc toi qui voilà, observe un petit peu les différents collectifs en Espagne, en Italie, comment en Espagne ou en Italie, quelle a été la manière dont ils ont défini ce point commun minimum? Est-ce que c'était le mot activité, changement, alternative? Ou est-ce que d'autres mots ont émergé?
Moi, j'ai un mot que j'aime beaucoup, que c'est adocratie.
Que c'est, pardon?
Adocratie.
Adocratie.
Ouais. En fait, j'ai pensé que beaucoup de fois, tous ces gens-là, tous les collectifs, ils ne peuvent pas penser à un jour où ils sont devenus ce qu'ils sont. Il n'y a pas un point de départ. En fait, il y a un processus. Ils ont commencé à faire des choses et du coup, ils sont devenus des collectifs. Ils sont devenus, en fait, des gens qui transforment l'espace public, la ville. Mais ce n'est pas comme avoir un travail où tu as un jour de départ. Et il y a quelqu'un qui a décidé de te donner ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est très contemporain. Et moi, je l'associe à cette idée de la docratie parce qu'en fait, c'est un esprit qui nous amène à développer des choses parce qu'on aime bien le faire. Et j'ai bien aimé, Juan, il disait tout à l'heure aussi, cette idée de bien être ensemble, de s'amuser. Et en fait, tous... Ils se trouvent à faire des choses. C'est aussi intéressant ensemble. Et quelque part, ils ne se sont pas posé au début la question de comment ils allaient fonctionner. D'ailleurs, ça donne aussi beaucoup de problèmes. Par contre, ils avaient presque très clair en tête ce qu'ils avaient envie de faire. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont commencé à faire de plus en plus de choses. Ça a tellement pris que d'autres gens, ils ont commencé à regarder à ça comme, je ne veux pas dire un modèle, mais comme quelque chose qu'ils ont aussi envie de faire.
Alors, le fait de, finalement, à t'entendre, j'entends quelque chose aussi d'empirique, c'est-à-dire, c'est par le faire, c'est par l'expérience que se constitue comme ça un retour d'expérience et donc la tentative de comprendre ce qu'on a fait et de comprendre, essayer de se définir à partir d'un faire. Alors ça, c'est assez intéressant parce que finalement, le collectif ETC, est-ce qu'on peut dire que le collectif ETC, par exemple, il s'est construit à partir aussi d'un grand fer qui a été ce détour de France où vous êtes allé à la rencontre des différents collectifs en vous posant la question, est-ce que ce que les uns et les autres font, ça nous intéresse, ça nous parle, tiens, voilà, et... Finalement, est-ce que là, vous n'avez pas, dans votre détour, constitué un réseau dans lequel vous vous insérez ?
Alors, avant de vouloir parler d'un réseau, effectivement, quand on a commencé à faire quelques actions ensemble, et il y a eu un moment l'envie d'aller rencontrer ce que d'autres faisaient sur le mode des compagnons du devoir et d'aller rencontrer et faire pendant une année auprès d'autres, et justement pour dans une logique de continuer un apprentissage ou une découverte de tous ces groupes qui ont fait des pas de côté par rapport au schéma traditionnel
qu'on
leur propose.
C'était à la sortie de l'école.
C'était juste après, c'était six mois, un an après avoir été diplômé. Mais donc avec cette envie de comprendre et de découvrir d'autres choses.
Et en cela, en allant dans ces différents collectifs, vous avez quoi ? Identifié des collectifs qui, possiblement, dessinaient un commun ?
En tout cas, on est allé rencontrer pas mal de gens qui ont des pratiques qui sont très diverses, mais qui ont toute la particularité de, c'est ce que disait Diego, de vouloir construire une autre ville. Donc c'est après, ils ont des formats d'organisation. Le terme collectif est hyper flou, il correspond à rien. Chaque on l'emploie à toutes les sauces, mais chaque groupe a un fonctionnement qui est très différent, un fonctionnement en interne, avec des structures qui sont très horizontales, d'autres qui sont plus hiérarchiques, avec des statuts juridiques qui ne sont pas les mêmes, avec des outils et des modes d'action qui ne sont pas les mêmes. Donc ça reste très flou et donc c'est très difficile de vouloir définir le contour d'une pratique. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de points sur lesquels on était... On avait des points de convergence sur la manière de penser, de faire ou de modifier l'environnement dans lequel on était.
À Marseille, en ce moment, c'est Hyperville, je disais. C'est cette tentative de documenter ce qui se passe dans les situations, de documenter les situations, de documenter les actions des différents collectifs. Et puis, en février 2013, à Saint-Étienne, c'est réuni Superville. Je crois qu'après, là, dans quelques jours, il y aura une deuxième édition de Superville à Paris. Et Superville, c'était quoi ? C'était la tentative, cette fois-ci, non pas forcément de documenter, mais quoi ? De se rassembler, de se fédérer, de constituer un réseau, une fédération, Florent ?
Alors, le terme documenté me paraît. On dirait qu'on va prendre les gens, on va les mettre dans une bibliothèque et ça va être super. Alors qu'en fait, il y avait. Je parle d'abord d'Hyperville. Il y avait la volonté que des gens qui ont. Avec des origines professionnelles très diverses, la volonté que des gens se croisent, se rencontrent et découvrent un territoire ensemble. C'est pour ça que c'était important pour nous de faire venir des gens d'Espagne qui puissent arriver à aussi apporter leur regard et la vision qu'ils ont des territoires. Et donc il y a eu 4 jours où il y a eu des rencontres très diverses, mais sur une question centrale qui est toujours la même, qui est celle de comment ensemble on peut construire une autre ville. La différence avec Superville, donc effectivement à la fin du Détour de France, on a organisé une rencontre avec des groupes qui sont principalement issus du métier de formation d'architecte, en tout cas dans l'origine de ces groupes. Et il y a eu 2 jours de rencontres aux environs de Saint-Étienne, où effectivement s'est posée la question de qu'est-ce qu'on avait en commun ? A-t-on vraiment des choses en commun ? Déjà, apprenons-nous un peu à nous connaître, et ensuite on pourra peut-être poser la question de ce que tu appelles une fédération, ou en tout cas un réseau de personnes qui se passent. Ça, c'était la chose qu'on avait organisée en 2013. Et aujourd'hui, il y a effectivement Bellastock qui s'est emparé de la chose et qui organise une deuxième rencontre avec d'autres acteurs, même s'il y a un noyau central qui reste le même et qui va à nouveau... les questions de qu'est-ce qu'on fait ensemble vont à nouveau se poser.
Et de savoir si vraiment on a des choses en commun.
Mais déjà, si on se rend compte, c'est qu'on a des choses en commun. Si on passe du temps ensemble, on a des choses en commun. Après, on a tous des méthodes et des manières de faire qui sont différentes. La question du réseau, elle est. Alors peut-être qu'on pourra rebondir sur la manière dont ils travaillent en espace et sur le réseau, ou je ne sais pas si c'est un réseau d'ailleurs, Arquitecturas Colectivas, mais en tout cas, d'arriver à ce qu'on se croise, qu'on trouve des moments d'échange et qu'on rende visibles les connexions qui existent entre chacun des gens, c'est nécessaire et c'est important pour tout le monde. De là à vouloir créer une entité supérieure qui nous chapeaute et qui nous fasse avoir un discours commun et qui lisse en quelque sorte les pratiques et qui en plus nous embarque dans une structure en plus où on va devoir mettre de l'énergie, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option.
Alors, architecture collective, donc c'est en Espagne. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération, un réseau ? Calais, on peut avoir peut-être effectivement un retour d'expérience parce que les collectifs qui sont là autour de la table, par exemple autour de la Praxis et Basulama, on le disait tout à l'heure, ils ont plus de 10 ans d'âge. Donc il y a une expérience par rapport au collectif ETC qui peut là nous importer et nous renseigner. Alors en Espagne, comment ça s'est construit ? Est-ce qu'il y a eu une volonté ou une tentative d'une fédération ? Est-ce qu'il y a une fédération ? Est-ce que finalement il y a eu l'idée de dire c'est pas une fédération, c'est autre chose ? Dominico.
Bon, ici on a aussi Diego que peut-être il y a beaucoup plus de choses à dire par rapport à ça, parce qu'il a été protagoniste de Arquitecturas Colectivas.
Arquitecturas Colectivas existe desde hace 9 años.
Existe depuis 9 ans.
Empezó con 10 colectivos.
Ça a commencé avec 10 collectifs.
Yo creo que ahora habrá como 100 colectivos.
Maintenant il y en a une centaine.
Al principio comenzó con una necesidad de conocernos,
nécessité de nous connaître, parce qu'on ne se connaissait pas.
Donde los colectivos todavía era como muy incipiente el movimiento
colectivo. C'était encore un moment à l'époque d'émergence des collectifs.
La primera necesidad fue ponernos caras, conocernos,
et
saber lo que
le premier besoin c'était de voir nos visages, de savoir ce qu'on faisait.
Y después surgió también otra cosa en paralelo.
Et ensuite, en parallèle,
un projet
qui était propulsé par Santiago Cirujeda,
qui
s'appelait Camiones y Contenedores Colectivos, camions et conteneurs collectifs.
Se consiguieron alrededor de 70 contenedores de barco.
On a obtenu 70 conteneurs de bateaux.
Y eso permitió como articular como un proyecto conjunto donde
ça a permis d'articuler un projet commun
donde existían como peticiones de muchas ciudades, o sea, de muchos colectivos que en paralelo trabajaban en construirse espacios en el mismo objetivo.
Qui articulait des pétitions des demandes d'usagers et des collectifs qui voulaient travailler ensemble. C'est ça?
Bueno, esto ha ido poco a poco construyendo como
petit à petit.
como un entorno donde la gente comparte recursos, comparte conocimientos.
Un entourage où les gens partagent des ressources, partagent des connaissances.
comparte afectos, o sea,
partage des affinités.
Y básicamente es un poco la estructura de la red de arquitecturas.
Es un poco la base de la du réseau de arquitecturas colectivas.
No es una federación formal.
C'est pas une fédération formelle.
Es una federación.
C'est une fédération
más informal de gente.
Plus informelle.
Que trabaja juntos.
De gens qui travaillent ensemble.
Que comparte un poco, pues.
Et qui
experiencias, conocimientos, y es la base un poco de la red española.
C'est ça la base du réseau espagnol.
Et donc ça s'est construit à partir d'un faire ensemble commun.
Sí, sí, es un poco lo que oui. el motor es construir haciendo y todo, incluso
c'est
el pensamiento se va construyendo.
Et toute la pensée
précisément en ese
se construit aussi petit à petit.
Alors, je reviens tout de même à Domenico, même si tu as eu la politesse de donner la parole à Diego par rapport à cette expérience. S'il en reste pas moins, je reviens vers toi, Domenico, que tu as un regard, et notamment, tu as observé aussi les modèles alternatifs d'organisation de ces différents collectifs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vu, observé la manière dont ces collectifs ont constitué des dénominateurs communs.
On parle toujours de l'Espagne. Et en fait, en Espagne, je pense que justement, Diego parlait de Santiago Cirujeda. Il y a une chose qu'il disait depuis longtemps, je pense 15 ans ou peut-être plus, qu'il disait Santiago Cirujeda, que c'était travailler dans la forme allégale. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, je retourne à ce que je disais tout à l'heure de l'adocratie, cette idée de travailler directement à faire des choses, apprendre à faire des choses. Et cette idée, de plus en plus, a pris force, je pense, en Espagne, grâce à la capacité des acteurs de commencer à faire des choses. Le disait aussi tout à l'heure Juan, ou je ne me rappelle plus si c'était Juan, mais en fait, faire des choses et après on va voir comment ça va évoluer. Et cette démarche a été importante pour après créer des liens avec des gens qui avaient les mêmes approches. Moi personnellement j'insiste beaucoup sur une chose, que c'est une présence très forte depuis longtemps en Espagne de ce qu'on appelle la culture libre, donc toute la culture hacker et open source, et après une capacité d'échange sur le numérique. Donc, les cas de l'architecture collective, c'est quelque chose de très concret, d'une rencontre, donc l'usage des ressources très concrètes qui a fédéré les gens. Mais j'ai trouvé, quand je suis arrivé en Espagne en 2004, déjà une force incroyable dans cet esprit d'échange. Et en fait, l'idée que ce qu'on est en train de produire, ça ne nous appartient pas en tant qu'auteur. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on met à disposition de tout le monde. Ça a aidé pas mal à créer des fédérations avec les différents groupes qui travaillaient en Espagne, je trouve. Et après, sur cette base culturelle, une fois qu'est arrivé toute la partie numérique, ça a aidé beaucoup à créer en fait, des échanges. Et notamment aussi avec la blogosphère et tout ça, en fait, il y avait vraiment un échange sur le net que je n'avais pas vu en Italie ou en France.
Est-ce que tu peux préciser, Domenico, c'est quoi le allégal ?
Le allégal, c'est, il ne faut pas confondre avec illégal. En fait, allégal, ce n'est pas quelque chose qui est contre la loi, mais que c'est en dehors de la loi, c'est-à-dire que ça n'était pas encore réglé. Donc c'est important parce qu'en fait, et ça c'est aussi un esprit espagnol que j'aime bien, il ne s'agit pas de faire des choses contre, il s'agit de faire des choses autrement. Et en fait, c'est pour ça que j'insistais sur le mot allégal, c'est-à-dire que avoir un nouveau imaginaire, et notamment aussi les indignés espagnols, c'est aussi relié à ça. Et c'est très important parce qu'en fait, une fois qu'on travaille toujours contre, on dépense des énergies à lutter contre quelque chose qui existe déjà et on n'utilise pas les énergies à créer un nouveau imaginaire. Et l'allégal, ça nous aide à dépenser des énergies à créer un nouveau imaginaire. Et quand tu crées des nouveaux imaginaires et tu les fais dans forme collective, c'est plus facile de créer des réseaux parce que chacun a sa place dans cette création collective.
Alors là, tu parles d'imaginaire, mais restons tout de même sur le terme allégal, parce qu'il y a le mot légal, donc c'est pas illégal, c'est pas hors, c'est pas contre la loi d'une certaine manière, donc, mais c'est allégal, c'est hors, en dehors de la loi, en dehors des normes.
Ouais, et ça c'est très important en France, je suis désolé, parce qu'en fait ici on est trop carré, des fois on est habitué justement à travailler dans des cadres, et des fois on pense qu'aller en dehors des cadres, c'est justement quelque chose que c'est pas poli, que c'est pas bien pour la société. Et en fait, il y a moyen d'aller en dehors des cadres sans être illégal. Et c'est pour ça que c'est important. Et en fait, quand tu sors des cadres, c'est plus facile de faire de la création collective. Parce que si tu as un cadre, donc l'illégal, c'est déjà défini et tu sais déjà comment tu dois agir. Une fois que tu sors en dehors de ça, tu dois imaginer quelque chose de différent. Et donc la liaison, la construction collective est plus intéressante.
Alors là, on vient tout de même de définir des bases assez intéressantes du commun, c'est-à-dire une certaine culture commune, la culture du libre, par exemple, une certaine culture de l'organisation, la dynamique du collectif, même si ça reste encore assez flou, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ce caractère flou, justement, qui fait aussi une base commune, et puis une certaine manière d'intervenir, une certaine manière d'être en situation qui a à voir avec ce hors-norme, ce en-dehors des normes. Vous êtes d'accord sur cette base-là, Juan ?
Oui, moi, j'ai souligné plein de trucs, mais je pense qu'une des choses qu'il a dit, c'est de créer un scénario exceptionnel, c'est-à-dire où les trucs qu'on n'attend pas peuvent avoir lieu. Et comme ça, on peut créer des trucs qui sont nouveaux ou nouvelles. Et aussi, c'est ça, une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec les déchets, c'est parce qu'ils ne sont pas réglés du tout. Donc tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire avec ça parce que c'est complètement nouveau.
Diego, à ces premières propositions comme ça qui dessinent le commun entre une culture commune, des manières d'intervenir communes, est-ce que tu y rajouterais encore quelque chose ou là déjà c'est déjà un peu voilà, une base suffisante, il ne faudrait peut-être pas aller plus.
Non. Sí, sí, es una, yo creo que sí que es una base suficiente.
Sí, yo creo que es una base así suficiente.
Porque responde a esa pulsión de transformación.
Parce qu'elle répond a cette pulsión de transformación.
Cuando Domenico plantea un poco el término legal.
Y cuando Domenico met les bases du terme légal.
Está detrás un poco unas cuestiones también como cómo hackeamos.
Ça pose des questions sur comment on va hacker la norme.
Cómo hackeamos el espacio público.
Comment on va hacker l'espace public.
Para mí, por ejemplo, tenemos
pour moi,
como algunos ejemplos como muy sencillos.
J'ai quelques exemples très, très simples à vous expliquer.
Yo creo que alegal, en realidad estás en la legalidad, pero la usas de otra manera.
Je crois que alegal pour moi c'est dans la légalité, mais tu l'utilises d'une autre manière.
Tú pides permiso para hacer una manifestación,
toi, tu demandes le permis
para hacer un evento cultural y haces
pour organiser un événement culturel. Et tu fais une manifestation.
Buscar un poco las vueltas, ¿no?
Tu cherches un peu les détours dans le.
Muchas de nuestras intervenciones no pasarían.
Beaucoup de nos interventions
estándares
ne passeraient pas dans les standards urbains.
Se clasifican como obras de arte.
Sont classifiés comme des œuvres d'art. Et œuvres d'art, ça contient tout.
Entonces, bueno, busquemos un poco la manera de ir como transformando por.
Donc on cherche un peu les manières d'aller en transformant.
La transformación política tiene que ver con nuevas lecturas. Que van un poco aplicadas un poco a esa
nouvelles lectures qui sont nouvelles lectures de ça qui sont un peu
ouais. C'est très proche des expérimentations dans l'art contemporain du détournement par exemple.
Sí, sí, bueno, arte contemporáneo está cerca un poco del activismo de
l'art contemporain il est proche de l'activisme
de la guerrilla urbana
de la guerrilla urbaine
de todo lo que tiene que ver
con la subversión avec la subversion de la réalité.
Superville, est-ce que l'enjeu, c'est le mot fédération, est-ce qu'il y a cet enjeu ? Je crois par exemple dans le livre que vous avez publié, Détour de France, suite à cette expérience du Tour de France à vélo, il y avait cette phrase, une fédération en acte plutôt qu'en structure. Donc déjà, ce n'était pas une fédération de collectif, mais une fédération en acte, j'aimerais qu'on commence à rentrer dedans, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il y avait le mot fédération. Florent.
On l'a écrit à plusieurs mains, ce bouquin. Mais non, effectivement, il y a la volonté de trouver des moments sur lesquels tout le monde puisse se croiser et se mettre en mouvement ensemble. Et ça nous paraît important. C'est-à-dire que c'est plus sur qui, c'est pas forcément sur qui on est qu'on doit se regrouper, mais plus sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et là-dessus, il y a tout le monde qui travaille à sa manière. Et si on est là, il y a des représentants de différentes structures, ça fait partie de ces moments de travail ensemble. Donc, en tout cas, arriver à multiplier les temps d'action communs, d'arriver à trouver de la place aux autres pour les faire venir, de trouver des temps de croisement, c'est des choses qui nous paraissent aujourd'hui essentielles.
Si on fait aussi cette discussion, disons, c'est une discussion qui est radiophonique, il y a là des auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément engagés dans des collectifs d'architectes, bien au contraire, la majorité d'entre eux en fait, sont sans doute intéressés à ces démarches, se disent « tiens, là, il y a une autre manière de faire la ville ». Mais si on a cette discussion, c'est sans doute parce que aussi la question de la fédération de ces différents collectifs les intéresse, parce que dans une situation où les pouvoirs publics disent faire de la participation, ils ont besoin un peu de savoir à qui ils ont affaire. Et est-ce que dans une situation comme la nôtre, où le discours, les mots que vous utilisez les uns et les autres sont aujourd'hui aussi dans le langage des politiques, est-ce qu'il n'y a pas de votre part une nécessité à clarifier un discours, une nécessité aussi à clarifier ce collectif, les situations correspondent à des situations éthiques sur lesquelles nous sommes d'accord, et puis là non en fait, même si ça se revendique de ce genre de procédure ou de ce genre de protocole, il y a arnaque. Enfin, il y a peut-être là un enjeu aussi de clarifier une situation.
Oui, j'étais à un symposium, ça fait des semaines, où on parlait que comment on peut renommer la situation dans laquelle on est en train de vivre, l'urbanisme, la société, l'architecture et tout ça, et en disant que c'est très difficile de donner des mots à un état qui est fluide encore. Donc, quand il devient plus solide, là, on peut trouver les mots, mais jusqu'à ce qu'on arrive à cette solidité. Cette subtilité, normalement, on utilise des métaphores, des anglicismes, des mots qui peuvent nous donner des images pour créer l'imaginarium. nous donner des imaginariums. Mais que c'est quand les trucs c'est passé vite, quand il s'arrête, c'est qu'on en trouve les mots. Donc.
Florent, sur cette nécessité de clarifier, est-ce que selon toi, il y a aujourd'hui une nécessité de clarifier un discours et de clarifier des actes ?
Je crois pas. En fait, il y a. Si on veut la. En fait, aujourd'hui, là, on constate que dans les marchés publics, il y a des appels d'offres qui sortent et on pourrait se dire qu'ils sont écrits pour nous. Quand je dis nous, c'est pas à côté, mais c'est dans la manière qu'on fait. Donc il y a des choses sur lesquelles on pourrait répondre parce que ça commence à être bien. De l'autre côté, on sait que le système de démocratie dans lequel on est a des institutions qui sont hyper lourdes, qui sont hyper lentes et qui sont toujours en retard. Donc si jamais ces institutions se sont emparées de nos manières de faire, ça veut dire qu'on se satisfait des marchés qui nous ont ouverts, eh bien, je pense que c'est déjà trop tard et il faut qu'on soit un peu en avance par rapport à ça. Donc moi, j'aurais tendance à dire si jamais ils nous écrivent des marchés, c'est déjà trop tard et il faut qu'on aille un peu en avant.
Diego, clarifier ou pas clarifier la situation ?
Moi, je pense que oui.
Porque, bueno, por ejemplo,
parce que, par exemple,
la participation siempre pasa con las palabras, ¿no? O sea,
passe toujours par la parole.
Se ha usado tradicionalmente
de manière traditionnelle, on a utilisé ça comme un outil consultatif. L'administration et les institutions font ça depuis pas mal d'années. Ils comprennent ça comme je te pose une question, puis ensuite on verra ce qu'on fera de ça. Peut-être qu'il faudrait un peu changer ce langage. Faire un travail de pédagogie avec les institutions.
Nosotros mismos, o sea, con la ciudadanía.
Nous-mêmes aussi et les citoyens.
donde realmente, o sea, esos procesos, a mí me gusta más llamarlo procesos colaborativos.
Moi, j'aime bien appeler ça le processus collaboratif.
La, para mí lo participativo es de arriba abajo. Yo te pregunto.
Pour moi, le participatif c'est du top down. Je te demande.
Y lo colaborativo siempre tiene que ver entre todos construimos y vamos hacia arriba.
Ça... Et le collaboratif c'est entre tous on construit. Et ça monte vers le haut, le bottom-up.
Construir ese contexto y construir un poco esa lógica implica cambiar muchas cosas.
Et construire cette logique, ça implique beaucoup de changements.
En la administración.
Dans l'administration.
En las maneras de toma de decisiones
dans
de
les manières
los propios
de prendre
espacios,
des décisions dans les espaces.
De los propios colectivos.
Nous-mêmes dans les collectifs.
Yo creo que ese es el camino en el que tenemos que estar trabajando.
Et je pense que c'est ça le chemin sur lequel on doit travailler.
Domenico, selon toi, est-ce qu'il y a la nécessité, comme ça, de, comme le propose Diego, finalement, de dire si, il faut clarifier, il faut porter un discours clair d'explication de nos méthodologies, de nos processus. Au fond, voilà, on a des protocoles communs et il faut être clair avec ça.
Moi, je pense que une des choses les plus intéressantes qu'on peut faire, c'est créer des nouvelles ambiances d'échange, en fait. C'est-à-dire que c'est qui clarifie à qui ? C'est qui a la parole ? Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que du coup, on se retrouve des groupes, des citoyens, des professionnels, des fonctionnaires, peut-être aussi des politiciens, à discuter ensemble pour reformuler, justement, comme on disait tout à l'heure, un nouveau imaginaire. Je veux porter ici un exemple que j'ai vécu à Madrid. Il y a un projet qui s'appelle la Mesa Ciudadana. C'est la table citoyenne. Et en fait, c'était des rencontres presque hebdomadaires, quand même très, très, très fréquents, après le 15 mai, où en fait, des citoyens étaient assis sur la même table avec des fonctionnaires. Donc des citoyens, des fonctionnaires et des techniciens, donc nous, des architectes, des urbanistes. Et dans cette table, on parlait du territoire. Donc on avait perdu notre rôle institutionnel, identité collective d'être citoyen, être fonctionnaire, être technicien. Et on parlait du territoire en tant que personne. Sans oublier notre expérience, notre expertise spécifique. C'est-à-dire que si moi je suis fonctionnaire, je n'oublie pas que je suis fonctionnaire et j'ai une connaissance que je peux partager. Et donc perdre cette institutionnalité ou cette appartenance qu'on amène toujours avec nous pour dire on est architecte, on est fonctionnaire, on est politicien, etc., ça aide après à travailler ensemble pour créer un nouveau imaginaire. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut créer donc, cette clarification, si on veut l'appeler comme ça. Et je pense que nous, en tant que gens intéressés à améliorer les territoires, on a cette responsabilité de favoriser la création de ces nouveaux espaces de partage, ambiance de dialogue, où en fait on construit ensemble quelque chose de différent.
Florent, toujours non ?
Mais non, mais... Mais non, mais je suis évidemment d'accord. Tout le monde s'est chambré pendant les 4 jours, là. Ça n'a pas arrêté. Ce que j'entends, ce qu'il se dit, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et arriver à avancer ensemble. Donc je suis d'accord sur ça. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut arriver à embarquer le plus de monde sur les processus qu'on fait. Mais je n'ai pas envie d'aller là où on nous attend. C'est tout. C'est pas...
Je pense qu'il y a des trucs différents. Juan. C'est-à-dire, je pense un petit peu avec comme Florent. Maintenant, je dirais que je n'ai pas besoin de dire qu'est-ce que je suis. Mais par contre, il faut clarifier les concepts qu'on est en train d'utiliser. C'est-à-dire aider les gens à se demander qu'est-ce que les mots veulent dire. On a utilisé si tant de fois soutenable,
soutenable,
qu'il n'a pas, du tout. C'est pas utile maintenant. C'est-à-dire c'est les mots, ils sont encore un déchet. Donc, je me souviens d'un projet que nous avons fait depuis 5 ans. C'était la encyclomierde. C'est-à-dire une encyclopédie, qu'on appelait encyclopédie, on dit.
Oui, une encyclopédie de merde.
Oui, c'est-à-dire de prendre des concepts qui est en train d'être utilisé par tout le monde comme soutenable, que ça peut être une voiture soutenable, et avec l'humour et l'ironie, travailler sur ça pour montrer à les gens comment on utilise et on déforme les mots jusqu'à un point où ils ne servent pas. Donc je pense que c'est ça.
Oui, parce que vous savez quand même, comme moi, effectivement, il y a l'exemple du soutenable. Il faut aller vers un développement soutenable, une économie soutenable. Et puis, vous savez tous très bien le destin de ce mot. Et vous savez aussi le destin qui a été donné à, vous savez, l'architecture écologique. Hein, les écoquartiers, ce genre de choses. Bon, ou alors la haute qualité environnementale. Hein, vous savez aussi le destin de ces normes. Donc, tout de même, il y a effectivement à chaque fois une réappropriation d'un langage qui vient d'un langage plutôt militant à la base, plutôt de contestation, et puis qui est repris. Donc, il y a bien un enjeu là de poser. Tu parlais, Domenico, de l'expérience d'une forme de table de quartier. Ici à Marseille, c'est expérimenté aussi des tables de quartier. Et puis en fait, bon, on s'aperçoit que la marge de manœuvre des habitants est quand même très très petite. Finalement, des questions leur sont posées. Et d'une certaine manière, ils doivent répondre à des problèmes qui leur sont posés, mais ils ne sont pas véritablement auteurs des problèmes. D'une certaine manière, ce n'est pas eux vraiment qui posent les problèmes. Quand on leur dit, voilà, on va changer la place, qu'est-ce que vous voulez ? Mais peut-être que la question de changer la place, c'était pas une question pour eux, c'était autre chose. Mais du coup, ils sont engagés dans un enjeu qui n'était pas le leur. Enfin bref, donc il y a bien là une question de langage à clarifier.
Ouais, dans ce cas-là, et c'est aussi intéressant de dire que l'exemple que j'ai porté de Madrid, ce n'était pas du tout institutionnel. Et justement, c'était ça qui a donné une force énorme au processus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était du conseil horizontal. Et je me rappelle d'une réunion, c'était génial, il y avait des voisins qui voulaient monter un potager urbain. Donc ils sont venus à la mise, à l'assemblée. Et en fait, ils sont venus demander de l'aide. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des fonctionnaires et d'autres citoyens qui ont donné des informations très utiles. Donc il y avait d'autres citoyens qui avaient déjà monté un potager urbain, qui ont lui donné des conseils très pratiques. Mais il y avait aussi les fonctionnaires qui lui disaient « Si tu fais ça, fais gaffe, parce que sinon il y a la police qui arrive. On est en train de faire un nouveau règlement municipal. Attends quelques mois pour faire ça. » Tu vois. Ce type de conseil, ça serait complètement impossible dans un cadre institutionnel, dans le cas que les citoyens en fait, allaient à la mairie à demander du conseil. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça rentre dans tout un débat par rapport à qu'est-ce qu'est institutionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment, comme citoyen, on peut être protagoniste dans les territoires en dehors de la recherche d'une relation, d'une solution qui vient des institutions.
Alors là, on a parlé de cette question du langage, préciser le langage, et puis on va aussi, peut-être qu'il nous faudrait rentrer au cas par cas des situations. Parce que là aussi, chaque collectif a plusieurs situations et les situations ne sont pas les mêmes pour chacun de vous. Ce n'est pas à chaque fois la même situation qui est reproduite. Et à chaque fois, c'est des situations différentes, des alliances différentes, des stratégies différentes. Parfois, le compromis est plus fort avec l'institution, parfois, il est moins fort. Donc, au fond, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de fabriquer un réseau des situations que plutôt un réseau des collectifs. Par exemple, tout à l'heure, lorsqu'on a discuté entre Otto Barrios, la plaine de la Belle de Mai et Gagna del Real, on avait là trois situations qui pouvaient dialoguer. Et donc, on avait plutôt un réseau de situations que plutôt un réseau de collectifs. Qui veut réagir, Diego ?
Sí, es que yo creo que hay que federarlo todo.
Bueno, o sea... pense qu'il faut tout fédérer.
No, bueno, vamos a ver. Los proyectos es interesante como federarse para compartir información.
Quand les projets sont aussi intéressants que de se fédérer pour partager de l'information.
Nosotros, por ejemplo, tenemos como un proyecto que es el Archive TAF.
Nous, par exemple, on a un projet qui s'appelle Archive TAF.
recoge como muchas situaciones
qui recueille beaucoup de situations
d'espacios diferentes
donde
intentamos recoger cuál es su modelo de organización, su
on essaie de recueillir quel est le modèle d'organisation, le modèle
de financement,
comment on prend les décisions.
Es importante porque precisamente esto hace que el
c'est important parce que précisément ça fait que
cuando arrancas un proceso por lo menos puedes mirar a otro.
Quand tu démarres un processus au moins tu peux regarder un autre.
Aprender y no empezar todos los días de cero, ¿no? O sea,
aprendre tienes... y pas commencer à chaque fois de zéro.
Y bueno, el lo que pasa es que siempre hay como un tema, que los contextos son diferentes. O sea,
ce qui se passe c'est qu'à chaque fois il y a quand même un thème avec des contextes différents.
Hay que tener un poco en cuenta que las miradas hacia el otro.
Il faut prendre en compte que les regards de l'un à l'autre.
Tienen una cierta limitación, ¿no?
Ont une certaine limite.
Y luego bueno, en términos de colectivos o situaciones.
Et après en termes de collectif ou de situation.
El colectivo casi puede funcionar como un gremio, o sea, un gremio que puede tener unas problemáticas
collectif.
Diferentes al espacio.
¿Qué es un gremio?
Un sector, pues, sector arquitectos, el sector profesional.
Ok. Une branche professionnelle. Repite lo que estaba diciendo.
No, bueno, que quizá un poco a la hora de federarse los colectivos se pueden federar en reivindicaciones laborales.
On peut fédérer autour de revendications de travail, d'autres types de revendications aussi.
Que quizá no coinciden con las federaciones de los espacios. Hay veces
qui ne coïncident pas forcément avec les fédérations entre situations et espaces.
Hay puntos en común, otras veces sí, otras veces no.
Des fois, il y a des points en commun et des fois, ça n'a rien à voir.
Là, j'entends par exemple, dans ce que tu dis, Diego, il y a la question de la professionnalisation de différents collectifs et de revendications, de reconnaissance que c'est un travail, de reconnaissance d'une manière de faire, de donner les moyens. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a effectivement une forme de réseau de situations. Où là c'est autre chose, c'est du partage d'expériences, c'est du partage de stratégies dans les situations. Donc d'une certaine manière, c'est deux niveaux de réseau différents auxquels on a affaire. Juan ?
Parfois on est si serré dans la définition d'un cadre ou de la définition d'un bout. Ou est-ce qu'on va y aller, non, la fédération, dénommer les trucs et tout ça, qu'on s'oublie de et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, je me suis ramené de rappeler, on était avec un ami, il avait laissé la relation avec sa petite amie, et il était très inquiété parce qu'il était déjà 30 n'importe quoi, et ma vie, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Il m'a dit, mais attends, chaque fois que je te vois, tu es en train de rigoler avec tout le monde, tu rires, tu t'amuses, n'oublie pas où est-ce que tu dois être, où est-ce que tu dois y aller, mais continue à être toi-même, et c'est bien sûr que n'importe où tu vas arriver, ça va être bien. Donc parfois, quand on pense, on est fixé à les finales, on s'oublie qu'on est en train de créer un imaginaire qui n'existe pas. Donc c'est très difficile de continuer avec l'innovation collective si on essaye de définir les finales.
Plus ou moins. Mais ce final, il est aussi lié tout de même à une forme d'éthique politique. Toujours dans ce livre qui m'a un peu... voilà, et aider pour comprendre ce qui se joue, ce livre, donc Détour de France. Je peux lire ceci de la parole d'un collectif beaucoup plus ancien, un collectif constitué dans les années 90, parce qu'il y a évidemment des collectifs plus anciens en France, hein, constitués dans les années 90, plutôt même d'ailleurs. Et il y a une phrase, le risque de devenir des poissons pilotes de la planification, un organe intégré au processus urbain, et là c'est pour Juan, venant mettre en désir des territoires dévalorisés pour préparer le terrain des investisseurs. C'est-à-dire, quand on travaille sur les espaces abandonnés en déchets et qu'on a des désirs, comme ça on dit « Ah, ça pourrait être un chouette espace » et ainsi de suite, y a le risque de venir préparer le terrain des investisseurs. Et imaginons que je constitue avec quelques amis un collectif qui aura uniquement cet objectif-là. Je peux me dire, tiens, je vais aller à Superville. Finalement, les collectifs, on est des potes, on fait un peu la même chose. Voilà, nous aussi, les espaces vides, là, on trouve que ce serait bien qu'on truc, mais on le fait pour préparer les investisseurs.
Mais enfin, c'est comme on disait avant, c'est lequel le but? Le but, c'est l'espace ou le but, c'est la communauté? Donc, tu, on utilise l'espace pour activer, pour conformer, pour consolider, pour la communauté. Donc, l'espace, c'est un outil. Tu peux l'utiliser, puis l'utiliser, je sais pas, et après, on verra qu'est-ce qu'il passe avec l'espace. En même temps, si, la si l'espace ne sert pas pour les buts d'activer la communauté, donc c'est inutile.
Est-ce que la question d'un manifeste peut se poser, par exemple? Est-ce que la question d'un manifeste peut se poser, par exemple?
Manifeste, c'est une parole très forte.
Manifeste, c'est un mot très très fort.
Es difícil. Yo creo que todavía en esa construcción de un movimiento,
dans cette construction d'un mouvement,
todavía hay como mucho por hacer, ¿no?
Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Sí que hay como intuiciones y que hay.
C'est sûr qu'il y a quelques intuitions.
Hay pequeñas cosas que estamos un poco empezando a vislumbrar, empezando a ver, ¿no? O sea, lo que pasa que creo que.
Mais ce qui se passe, c'est que je crois que.
Creo que dentro un poco de toda esta corriente.
Je crois que dans tout ce courant.
Hay como muchos posicionamientos ideológicos detrás.
Il y a beaucoup de positionnements idéologiques derrière tout ça.
Y es difícil un poco construir un poco un pensamiento.
C'est difficile de construire une pensée unique.
Porque en realidad es un pensamiento.
Parce qu'en réalité, c'est une pensée.
Más repartido, más
très réparti,
inclusivo, ¿no? O sea,
très inclusif.
El manifiesto.
Et peut-être que le manifeste, il va contraindre et empêcher de recueillir toute cette diversité.
Domenico ?
En fait, je profite de la parole pour commenter quelque chose d'autre. Par rapport en fait, à la récupération des espaces, il y a quelque chose qu'on doit penser, c'est qu'en fait, en tant que citoyen, on a carrément oublié l'idée que nous, on peut être protagoniste de la vie de la ville, en fait. Nous, on est devenus des usagers qui, en fonction de notre capacité économique, on choisit quel est le quartier où on va habiter. Et une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a l'argent pour le faire, on s'installe. Et en fait, on n'a aucune relation avec nos voisins. Donc, dans cette construction de ce que je pense Juan appelle la communauté, il y a toujours un intérêt de travailler sur la construction de nouvelles relations entre les citoyens ou donc une communauté aussi plus diverse qui puisse expérimenter la force d'une chose qu'on peut appeler intelligence collective ou création collective. Que c'est quelque chose qu'on a perdu. Et ça, ça part pour des choses très simples, comme pour être un groupe de consommation, comme les AMAP ou d'autres organisations, vers d'autres actions un peu plus conscientes. C'est-à-dire que, et là, peut-être j'ai fait référence au manifeste, c'est vrai qu'il y a des agents, des acteurs, qu'on peut avoir une vision qui va beaucoup plus loin. Et donc, peut-être l'intérêt d'un manifeste, je ne sais pas, moi aussi je pense que c'est très fort comme mot. Par contre, je pense que notre intérêt, c'est toujours de travailler avec tous les acteurs qui sont dans un territoire pour que tous puissent avoir un morceau de protagonisme dans la transformation de ce territoire. Parce qu'en fait, nous, on a oublié l'intérêt de faire des choses avec nos voisins, parce que notre style de vie après la révolution industrielle, ça a été carrément travailler 8 heures. Et pour moi, c'est aussi bizarre parce que toute la revendication, même syndicale, de baisser les heures de travail, notamment en France où vous avez les 36 heures, et ça n'a pas pris en compte la possibilité d'être citoyen. Et c'est intéressant parce que c'est en France où on a commencé à parler avant que d'autres pays, de le droit à la ville. Et par contre, à chaque fois qu'on fait des luttes, même la lutte du droit au travail, maintenant c'est très actuel en France, on oublie à chaque fois qu'on ne doit pas penser dans un contexte très rigide, dans un cadre très fermé, mais dans un cadre encore plus large. Donc, si on pense à le droit à la ville, que c'est quelque chose qui est vraiment né en France, on peut dire, tout change. Et donc, notre situation en tant que collectif, en tant que professionnel, citoyen, ça rentre parfaitement dans cette nouvelle ligne où on mélange tout. C'est toujours très confus. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'en fait, on est en train de vivre vraiment l'actualité pour ne pas tomber dans cet encloisonnement qui nous a fait travailler et lutter pour des choses trop spécifiques, non ? 6 heures, 7 heures, 8 heures.
Le vent est en train de se lever sur la place. Nous sommes abrités du soleil par un barnum et parfois il tangue, mais quelques camarades sont là pour le tenir. Merci à vous pour tenir le studio. J'employais donc le mot de manifeste. Diego disait « Oh, c'est trop fort ». Il risquerait d'évacuer le caractère divers, la diversité, l'hétérogénéité, et qu'il serait sans doute trop cadré d'une certaine manière. Florent, tu es d'accord avec ce que dit Diego ? Pas de manifeste, trop fort ? Et Juan aussi, pour vous, c'est trop fort ?
Moi, je suis d'accord avec Papy Diego. C'est le... c'est en tout cas ce qui me paraît important, c'est plus d'avoir une... il existe des projets manifestes et des actions qui sont manifestes. Donc c'est pas forcément un texte comme tu peux l'entendre ou qui doit arriver à mettre tout ça, mais c'est en tout cas des séries d'actions qui le sont à Autobarrios en un temps. Il y en a plein des choses.
Mais alors par exemple justement, parce que là c'est intéressant ce que tu dis, par exemple sur Superville, comment se... justement, Superville, est-ce que c'est une rencontre de situation, d'action, ou est-ce que c'est une rencontre de collectif ?
C'est une rencontre de collectifs qui mènent des actions un peu partout et qui vont pouvoir échanger autour de ça.
Par exemple, j'ai une question, c'est à quoi sert un manifeste ? Et pourquoi on fait des manifestes ? Normalement, pour s'exprimer. Par exemple, je me suis souvenu tout d'un coup que les seuls manifestes que nous avons faits, c'était les premières années. C'est-à-dire l'année qu'on n'avait même pas réfléchi sur qu'est-ce qu'on faisait, on a fait un manifeste. Et après ça, on n'a jamais fait un manifeste. Parce que, comme le disait... Et je pense que Diego et aussi Florent, et c'est avec la pratique que tu montres qu'est-ce que tu veux dire. Donc, si tu es déjà là en train de montrer qu'est-ce que tu fais, pas qu'est-ce que tu veux, donc tu n'as pas besoin d'un manifeste dans ces cas-là.
Mais, par exemple, vous êtes à Marseille depuis 4 jours, Diego et Juan. Domenico, tu es arrivé hier. Le Hyperville vous a quand même pas mal baladé hein, dans la ville. Hein. Oh là là, vous êtes allé dans différents endroits et vous avez vu quand même plein de collectifs différents. Vous retrouvez dans tout ce que vous avez vu, entendu, considéré que bah, tout cela, oui, c'est une même grande famille. Que tout cela, tous ces collectifs, tout cela est une même grande famille.
Moi, je voulais remercier l'organisation parce qu'en fait, on a réussi en peu de jours d'avoir un coup d'œil à la complexité qu'il y a à Marseille. Et pas seulement la complexité physique avec toutes les promenades, et aussi avec la complexité des relations entre des différents acteurs qui se mélangent pour des projets et qui se mélangent pour habiter ensemble ou pour construire ensemble. Et je ne sais pas si c'est une grande famille, mais ce que j'ai vu, c'est comme une grosse énergie qui vient d'en bas, de plusieurs personnes, et qui a l'air qu'il va construire quelque chose de différent. Et ça m'a plu beaucoup. Et j'ai, comment dire, incorporé plein de sensibilités de la visite. Et pour ça, moi, je pense que ce n'est pas facile du tout de montrer ça. Et on a réussi. Donc
là, par exemple, on a ouvert cette émission en donnant tenter de donner une base commune. Mm-hmm. Et puis finalement, en disant ce que tu viens de dire, Juan, tu dis, mais sur Hyperville, moi, il y a un commun, c'est le venir du bas, quoi.
Mm-hmm. Oui, l'énergie.
L'énergie. Diego ? Ben, Diego, ma question était de savoir si parmi tous les collectifs rencontrés, finalement, tu t'y retrouves, d'une certaine manière, tu considères que là, il y a un commun qui se dégage, voilà, que tu n'y as pas rencontré des formes d'intrus, quoi.
Bueno, no sé, es difícil en cuatro días, ça,
c'est dur en quatre jours de connaître tout ça.
Yo lo que me llevo es un, son los momentos. O sea,
que moi, ce que je retiens, c'est les moments, o sea, qu'on a vécu. Personnellement, ça a été comme... Je me suis trouvé très proche
de
beaucoup des projets.
Quand
on est allé sur la place, quand on est allé dans le jardin.
como estar como cerca de muchas cosas a las que las que compartimos, ¿no? O sea,
c'était très proche de beaucoup de choses qu'on partage.
Yo me quedo un poco más bien con una sensación, o sea, de haber estado como cerca.
Je reste plus avec une sensation
de que hayáis abierto las puertas de vuestras casas, de vuestros proyectos, de
que vous avez ouvert la porte de chez vous, de vos projets.
Cosas en común, muchas. Sensación, pues que me lo he pasado muy bien.
Oui. Plus une sensation d'avoir vécu de beaux moments.
Florent m'indiquait sur un petit papier, il va falloir conclure, parce qu'il y a l'aéroport. Et vous n'allez pas prendre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On a commencé cette matinée avec les élections en Espagne, et puis s'apercevait que le système politique était bloqué. C'est peut-être une très bonne nouvelle d'ailleurs que ce système politique soit bloqué, parce que ça laisse de la marge de manœuvre, la possibilité des citoyens d'agir. Et puis il y a eu un référendum en France. Dans le département de la Loire-Atlantique et puis c'est autour de la construction de ce nouvel aéroport à la ZAD. Le oui l'a emporté fortement. La première discussion, l'étape de la plaine, Gagna Real, Autobarrios, il aurait pu avoir la ZAD autour de la table. Ça aurait pu être un petit super-ville dans lequel il y aurait la ZAD, sans pour autant qu'à la ZAD, par exemple, il se pense en termes de, je sais pas moi, collectif d'architectes, ou ce genre de choses, quoi. Mais finalement, la ZAD, c'est un endroit, je sais pas, Florent, la ZAD, c'est un endroit où aussi s'expérimente ce que vous expérimentez.
Je crois qu'il se passe des choses là-bas qui sont hyper intéressantes sur les formes d'organisation collective et accrochées à un territoire. Donc il y a des choses dans lesquelles on se retrouve et d'autres peut-être un peu moins, mais en tout cas on regarde, on essaye de regarder assez attentivement ce qui se passe là-bas. Et il y a sûrement un paquet de passerelles qui existent sur ce qu'on fait.
Diego, d'Espagne, la ZAD, ça vous parle ?
J'en avais jamais entendu parler. Aucune info.
Eh ben, peut-être que si vous allez, peut-être Diego, que si vous vous retrouvez à Superville, non pas Superville 2016, mais peut-être à Superville 2017, peut-être qu'il y aura la ZAD et peut-être que vous serez invité à Superville pour découvrir ce qui se passe du côté de la ZAD. C'est peut-être aussi ça l'enjeu aussi de faire rentrer dans ces réseaux des expériences qui ne sont pas immédiatement comme ça très identifiées autour des projets d'aménagement du territoire en logique de co-construction. On ne sait pas, peut-être un devenir possible de Superville, d'élargir aussi à des réseaux qui paraissent un peu, ou à des actions qui paraissent un peu plus éloignées de ce qui se fait déjà. Merci à vous d'avoir participé à ce deuxième plateau, d'avoir été là sur les ondes de Radio Grenouille toute la journée. On n'a peut-être pas fait un manifeste écrit, mais tout de même, peut-être que ce plateau, en posant un certain nombre de pierres, de notions communes, aussi bien dans les manières de s'organiser qu'une culture commune, qu'une culture d'organisation commune et qu'un certain nombre de manières d'intervenir dans la situation, des petits points de protocole, fait que malgré tout, il y a quand même une espèce de manifeste en négatif qui s'est exprimé là, ici. Merci à vous, merci à Hyperville pour son invitation à ce que Radio Grenouille participe. Merci à Yes We Camp pour le service radio de cette caravane radio. Merci à Jean-Baptiste pour la réalisation de cette matinée. Et tout au long de l'après-midi sur les ondes de Radio Grenouille, eh bien, Hyperville va continuer à irriguer les ondes. Merci à vous.
Merci.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.